Donc, continuons sur le sujet de la paix, sur la trame que le dernier congrès des CAEF avait initié, avait proposé, réfléchir sur la paix. Et le titre d'aujourd'hui, qui était le titre du message qui a été donné au mois de juin aux églises CAEF. Heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé. Heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé. Donc, monde fracturé, on comprend ce que c'est. On voit que notre monde est pas tellement en paix. Hein. On constate les choses, puis on parle des guerres actuelles, on parle des guerres du passé, on fait des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale, avec la guerre froide. Et il y a toujours des choses anciennes qui semblent ne jamais changer. Et puis, en plus, des choses nouvelles, des armes nouvelles, que même dans les films de science-fiction, ils n'avaient pas imaginé ce que deviendrait la guerre. Aujourd'hui, une chose est sûre, elle est toujours aussi meurtrière et cruelle. La capacité de tuer augmente avec notre technologie augmente et notre capacité à faire du tort avec augmente également. Je ne veux pas vous accabler beaucoup avec cela, on l'est assez chaque jour. C'est vrai qu'on a des dirigeants dans le monde qui sont bien inquiétants. Et malgré tous leurs efforts, le sang coule toujours. Non seulement cela, on parle que des inégalités entre les riches et les pauvres qui augmentent, des problèmes migratoires qui semblent insolubles, l'augmentation de la violence dans la société. Et qui fait l'actualité en France, l'augmentation drastique de la consommation de drogue, de stupéfiants. Sans parler, bien sûr, de la crise environnementale, de la crise climatique qui est là. Alors, nos concitoyens se disent peut-être, alors que fait Dieu dans tout cela? Et nous le savons, ce que fait Dieu. Dieu nous propose l'Évangile, une bonne nouvelle. Acte 17, 30, nous lisons ceci, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant, tous les jours, hier et aujourd'hui, à tous les autres humains, à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer. Changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné à tous une preuve certaine à leur ressuscitant des morts. Notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et avec l'apôtre Paul, nous sommes encouragés, comme lui. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et donc, heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé. Mais comment faire à mon niveau? C'est un petit peu le sujet de ce matin. Comment faire? Quel rôle devons-nous jouer là-dedans? Alors, Thomas Poète, qui donnait le message, lui dit, il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre le plan du salut. Il en avait longuement parlé. Et il faut comprendre notre place et ce que Dieu attend de nous, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors c'est un message, je m'excuse, qui va surtout s'adresser à des personnes qui connaissent la parole de Dieu et peut-être vous n'êtes pas familier, coutumier avec elle. Alors bon, il va y avoir plusieurs passages que je vais lire et Peut-être que il vous sera, vous allez vous sentir un peu perdu, mais bon, j'espère que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, parlera à chacun d'entre nous dans la situation où il se trouve. Pour commencer, je voudrais donc, comme lecture de trame, que nous relisions ensemble Matthieu chapitre 5. Les paroles que Jésus-Christ a adressées à ses disciples, c'est le sermon sur la montagne, c'est là où il fixe un petit peu comment va fonctionner son royaume. Comment va être organisé son royaume et qu'est-ce qu'il attend de ses sujets pour un roi? Bon, c'est un mot un peu qui correspond peut-être pas à la relation qu'on a avec Jésus. Mais ses disciples, peut-être, ses amis, ceux qui le suivent, ceux qui l'a sauvé. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, Matthieu chapitre 5, et il s'assit avec ses disciples, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Et Jésus nous instruit aujourd'hui. Verset 3, Matthieu chapitre 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez transportés dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. À ce stade du texte, on voit qu'on est dans un autre monde. On voit qu'on est dans la recherche d'un autre bonheur. Et c'est complètement, peut-être déstabilisant. Mais Jésus continue. Verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il est bon à être jeté dehors, foulé aux pieds par les gens. Verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis en effet. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi, de l'aide de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux gens à faire d'eux-mêmes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, des spécialistes religieux de l'époque, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui traitera son frère de raca, c'est une insulte, hein, sera passible du Sanhédrin. Celui qui traitera de fou sera passible de la guéhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, on est dans le contexte hébraïque de l'époque, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, que tu ne sois mis en prison. Amen, je te dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est une cause de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté entier dans la géhenne, les temps de feu. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas de d'inconduite sexuelle, la rend adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre seul un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Verset 38, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, porter une charge pendant une certaine distance, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes n'en font-ils pas autant, les publicains de l'époque? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'éthique du royaume de Jésus, différente de tout ce qu'on trouve dans le monde. Un message différent. Thomas Poète dit, les chrétiens sont en tension entre le monde et le ciel. Ils ne sont plus de la terre, mais ils sont sur la terre. Et ce n'est pas par hasard. C'est Jésus lui-même, le Maître, qui le voit ainsi. Dans sa prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, on lit, il prie Dieu, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et un chrétien est donné à Jésus, par Dieu. Alors, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, si nous sommes rentrés dans ce grand plan du salut, si nous avons compris notre situation de pécheur, si nous avons accepté le sacrifice de Jésus sur la croix, et si nous attendons son retour en vivant la sanctification, les progrès, l'édification, changer, ressembler de plus en plus à Jésus. Si nous sommes donc à Jésus, si nous lui appartenons, si nous sommes son disciple, nous savons que nous sommes à lui. Dieu nous a donné à lui. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Plus loin, ils ne sont pas du monde. Verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous avons un rôle d'adoration de Jésus-Christ. Nous sommes donnés à Jésus. Nous sommes de Dieu et nous adorons Dieu. Nous lui rendons gloire. L'apôtre Jean présente cette vision au ciel où il y a des vieillards, comme dit que ça représente l'Église, et qui jettent leur couronne et qui adorent l'agneau de Dieu. C'est notre première mission et c'est ce que nous faisons ensemble quand nous nous réunissons tous les dimanches. Et c'est pour ça que c'est important de se retrouver le dimanche ensemble pour porter notre adoration à Jésus comme on l'a entendu encore tout à l'heure, comme cela est monté vers Dieu encore tout à l'heure parmi nous pendant notre moment de culte. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et nous avons aussi, sommes aussi envoyés dans le monde. On n'est pas toujours dans la salle, autour du Seigneur, ensemble. On est aussi beaucoup à l'extérieur. Et c'est ce sujet particulier qu'on regarde, comment être à la fois du ciel et de la terre. Quel intérêt avons-nous pour le monde si nous n'avons pas quelque chose à lui transmettre et qui vient d'en haut, si c'est simplement nos propres ressources que nous avons. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Et c'est ce dont le monde a besoin, c'est quelque chose qui vienne d'en haut, qui soit transcendant. On ne peut pas aider, si vous vous sentez capable, pour aider les personnes qui sont au gouvernement. Moi, je ne me sens pas capable de les aider. Mais je sais que je peux prier pour eux. Nous sommes entièrement de la terre par notre corps physique et en même temps, nous sommes de Dieu. Cette double condition de croyant traverse toute la Bible, dit Samuel Poète. Et ça commence dès le départ à la création. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu le sixième jour, comme les animaux, fabriqués de la même matière que nous sommes fabriqués de terre. Mais en même temps, il y a ce septième jour, le jour du repos. Nous avons, l'homme a eu une activité de gestion de la création, de l'administration de la création, mais il y avait le jour du repos, le jour où l'on tourne les yeux vers Dieu. Et c'est une particularité de l'être humain que d'être invité à cette journée de communion avec Dieu, ce jour de repos où l'on cesse des activités pour se tourner tout entier vers Dieu. À la fois de la terre, à la fois du ciel. Abraham, c'était son cas aussi, hein, il était appelé prophète de Dieu, prince de paix, Genèse 19:7, Genèse 23:6, vous voulez voir ses références, et sa descendance, Dieu a promis de bénir toutes les nations. Le peuple de l'ancienne alliance était un peuple de prêtres devant Dieu aussi, devant les autres nations. Je vais vous faire la lecture de Exode 19, 5, 6. Si vous voulez le chercher avec moi. C'est un point qui est important dans le dans ce que a communiqué Thomas Poète. Donc Exode, c'est tout à fait au début. Exode 19. C'est le moment de l'alliance au mont Sinaï, là où le peuple a reçu les tables de la loi, là où ils ont entendu la voix de Dieu. Maintenant, Exode 19, c'est « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et le peuple de l'ancienne alliance avait ce rôle à la fois d'adoration de Dieu, de rendre un culte à Dieu, apporter des sacrifices, les louanges, et en même temps, ils avaient une mission de rayonnement autour des peuples qui les entouraient pour attirer à eux tous les autres peuples de la terre par rapport à la loi de Dieu, la parole de Dieu qu'ils avaient à leur possession. Deutéronome 4, versets 6 à 8. Les sacrificateurs étaient en quelque sorte, dans la Bible, ils étaient pris au milieu du peuple et ils étaient donnés au service de Dieu. Et ensuite, il y avait ce rôle d'être renvoyé vers le peuple. C'est un petit peu la même chose que pour nous dans la Nouvelle Alliance, le premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Chapitre 2, 1 Pierre 2, 4. L'apôtre Pierre écrit à l'Église et nous écrit à nous à travers la parole de Dieu. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et là donc, il s'agit bien de nos réunions, d'édification que nous avons, comme maintenant, où nous sommes ensemble et où nous nous approchons ensemble de Jésus. Et un petit peu plus loin, au verset 9, l'apôtre poursuit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Le peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Et donc, c'est la même chose, cette double mission d'adorer Jésus et également annoncer les vertus de Jésus-Christ dans le monde entier. Donc, nous ne sommes pas du monde. L'Église ne tire pas sa raison d'être de sa mission. Être des artisans de paix, c'est pas ce qui fait notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'adorer Jésus-Christ. Nous avons été donnés à lui. Il peut y avoir des bonnes choses dans le monde qu'on peut approuver et qu'on peut encourager. Hein. Est-ce que vous connaissez les trois R? Les trois R pour l'environnement. Réutiliser, réduire, réutiliser, recycler. Ça parle des emballages. Réduire au maximum les emballages. Les réutiliser au maximum et les recycler quand on ne peut pas faire autrement. C'est des bonnes choses. c'est des bonnes choses pour la planète, c'est quelque chose de bon que la société veut mettre en place, et on peut tout à fait l'approuver et encourager cela et le faire. Mais pour autant, n'étant pas du monde, notre mission n'est pas de donner notre quitus à tel ou tel politique ou à tel ou tel homme politicien. Le danger des chrétiens, c'est quand ils deviennent nombreux, ils ont un petit peu de pouvoir ou d'influence, et voilà, la façon dont ils l'utilisent n'est pas toujours la plus appropriée. On voit ça en Russie avec l'église orthodoxe, ou on voit ça aux États-Unis également avec bon nombre d'églises évangéliques, hein, même. Et on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. C'est pas notre affaire, le monde. Notre première affaire, c'est adorer Dieu. Et on n'a pas à chercher l'approbation des dirigeants politiques non plus. On n'a pas à rechercher leur faveur pour telle ou telle facilité que ça nous procurerait. L'humanité sans Dieu avance vers le jugement. Il ne faut jamais perdre de vue cela. Et les lois du royaume de Dieu qu'on a rappelées dans la lecture de Matthieu 5 sont radicalement différentes de celles du monde. Il n'y a pas grand-chose à voir avec. Pas du monde. Pas du monde. L'Église est du ciel. Dans la fin du livre de l'Apocalypse, on a cette image, c'est vos Bibles, de la Jérusalem céleste. D'où est bien cette Jérusalem céleste? Elle descend du ciel. Elle descend d'en haut. Elle est édifiée dans le ciel. Et l'Église donc peut apporter une parole prophétique qui vient d'ailleurs. Son message vient de la parole de Dieu. Son message n'est pas dicté par l'actualité politique du moment. Et la paix que recherchent M. Trump et M. Netanyahou n'est pas la paix de Dieu. Et les moyens employés ne sont pas les moyens employés par Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure les béatitudes. La tâche de l'Église est de bâtir, la tâche de l'Église est de bâtir l'Église. La tâche de l'Église est de s'édifier, édifier nos frères et sœurs, se laisser édifier par notre Dieu, et pas de transformer le monde. On n'a pas la mission de transformer le monde. Jésus ne nous a pas donné le mandat d'aller transformer le monde. La raison d'exister de l'Église est en Dieu et non dans le monde. L'Église est de Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens sont appelés des saints. Alors, bien sûr, il y a un écueil à éviter, c'est de se voir un petit peu au-dessus des autres, de se voir au-dessus de nos concitoyens. Et l'Église a souvent eu tendance à faire ça dans l'histoire. On a l'Église catholique qui avait fait ça beaucoup, hélas. Jésus-Christ, tel qu'a été Jésus-Christ dans le monde, tel nous sommes dans le monde. Dieu nous a envoyés dans le monde comme il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Et Jésus-Christ s'est présenté comme un serviteur. Il s'est présenté comme un serviteur. Et il avait un habit, une tenue de serviteur. Tel Jésus-Christ a été dans le monde, tel nous sommes dans le monde. Et l'idée, c'est pas du tout, et il faut cette idée de domination, de se sentir au-dessus, de se faire des compétitions, est très, 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 très claire, hein, dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tant aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse aussi ton vêtement, etc. etc. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On n'est pas là pour dominer. Et pourtant, nous sommes dans le monde. Jésus a dit, on l'a entendu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. dans le monde. La présence de l'Église dans le monde est un envoi par Dieu. Et si premièrement nous appartenons à Christ, premièrement nous adorons, nous louons le Seigneur, nous nous réjouissons de ce qu'il est pour nous, comme une fiancée se réjouit d'être avec son fiancé, comme elle se réjouit de penser à lui, comme elle se réjouit de la perspective d'être avec lui, et comme elle se réjouit de simplement passer du temps avec lui, d'être avec lui. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, il y a cette mission. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des comme vous, hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, notre présence dans le monde, pourquoi est-elle importante? Elle est là pour comprendre le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et nous avons besoin d'être remplis de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et si nous sommes dans notre coin, si nous fréquentons que des chrétiens, si nous vivons entre nous tout le temps, peut-être ce sera confortable, mais on ne va pas voir les besoins des personnes qui nous entourent. On ne va pas les comprendre, on ne va pas mesurer la joie que nous avons en Christ et mesurer leurs besoins. Je ne me souviens plus de quel missionnaire avait eu ce rêve. Il était là dans un bateau et il y avait, peut-être tu te rappelles qui c'est, Patrick, il était là dans un bateau et tout était bien, il y avait de la musique sur le pont, et puis quand il regardait en bas la mer, il y avait tellement de personnes qui se noyaient. Alors on est envoyé dans la mer. Nous avons besoin aussi de comprendre quelle est la meilleure façon de communiquer l'évangile à nos concitoyens. Et si on n'essaye pas de se mettre à leur place, si on n'essaye pas de les comprendre, si on n'essaye pas d'être avec eux, comment on va pouvoir leur parler? Comment on va pouvoir entrer en communication avec eux? Comment on va pouvoir leur parler de l'évangile pour qu'ils la saisissent? Nous sommes envoyés dans le monde. Jésus n'a rien laissé à ses ennemis. Il y a cette pensée qui nous traverse parfois. Vous savez, oh, après moi le déluge, de toute façon le monde est pourri. Alors, voilà, bon, pour la poubelle, c'est plus mon problème. Même si l'apôtre Jean dit que le monde gît dans le sein du malin, pour autant la terre appartient à Dieu et Satan n'aura le dernier mot sur rien. Il faut bien comprendre cela. Rien. La victoire de Jésus-Christ sera complète sur toute la création et ce sera fini du mal. Ce sera terminé. Il n'y a rien, tout sera restauré et rétabli en Jésus-Christ qui est le nouvel Adam, qui est le nouvel Adam. Jésus-Christ est l'homme fort qui a pillé la maison de Satan en Matthieu 12, 29. Il dépouille les autorités, les dominations et les livres en spectacle. En Colossiens 2, chapitre 15, Jésus-Christ ne laisse rien à ses ennemis et nous n'avons rien à leur laisser. Et le mandat de prendre soin de la création, puisqu'on parle beaucoup d'écologie, n'a jamais été retiré à l'homme. Et la création, on le sait, elle attend. La révélation des fils de Dieu, dit l'apôtre Paul, parce qu'elle a l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption un jour, tout sera nouveau par Jésus-Christ. Alors nous sommes bien dans le monde, il y a deux écueils à éviter, selon Thomas Poet. Être dualiste, séparer le corps et l'âme. Finalement, il n'y a que l'âme qui est importante, le corps n'est pas important. Et Jésus, donc, on s'occupe des âmes déjà, mais on ne s'occupe pas de leur corps, on ne s'occupe pas de leurs conditions de vie, on ne s'occupe pas de voilà, uniquement, voilà, l'âme. Jésus-Christ est venu pour également la résurrection des corps et la restauration de la création. On ne peut pas séparer un être humain. Il a un corps, il a une âme. On peut dire aussi qu'il a un esprit, corps, âme. Et c'est holistique, c'est inséparable, ça fait un ensemble. Être dualiste, être militant également. Présenter les valeurs chrétiennes sans présenter Christ. Faire adhérer aux valeurs chrétiennes sans que la foi en Dieu soit utile. Et c'est un grand danger, hein. Être militant. Et deuxième danger que souligne Thomas Poet. Donc, en ce qui concerne être dans le monde, ces deux dangers-là, en ce qui concerne être du ciel, donc avoir la grosse tête, et puis également ne plus voir les besoins de ceux qui ne sont pas au Seigneur. Alors, ce que l'Église peut faire, il dit qu'il y a quelque chose qui est à notre portée. On peut prier pour le monde lors des cultes, on peut intercéder pour la paix du temps d'Israël, de l'histoire d'Israël ici. Ils ont été envoyés à Babylone, en exil, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient plus à Jérusalem, ils étaient dans une terre étrangère, des gens qui parlaient une langue étrangère. Et ils étaient là et il leur tardait de revenir à Jérusalem. Mais le prophète Jérémie leur dit, voici ce qu'il dit l'Éternel, le maître de l'univers, Jérémie 29, 4, 7. À tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, nous sommes été envoyés dans le monde. Construisez les maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits, mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils, des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre, ne diminuez pas. Et il ajoute, recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. 1 Timothée 2, 1, 4, nous lisons l'apôtre Paul. J'encourage donc avant toute chose à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous prions que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'Église peut prier, et on peut prier et intercéder pour la paix, on peut prier et intercéder pour nos concitoyens, et on, non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. Ce que l'Église peut faire, elle doit également se considérer, dit-il, comme un lieu de formation pour être les artisans de paix. C'est comme être parmi nous, c'est comme faire des répétitions. C'est là où on va s'exercer, parce qu'on n'est pas parfait. Donc on va s'exercer à plein de choses. Le fait de se fréquenter, le fait de se... Voilà, c'est bien, mais aussi ça polie un petit peu, un travail de polissage des pierres que nous sommes, pour qu'on soit bien lisse, pas rugueuse, pas tranchante, et qu'on puisse être propre à être utilisé lorsqu'on sort dans l'église. Thomas Poet donne cette illustration de ce qui s'est passé dans une communauté amish. Le 12 octobre 2006, en Pennsylvanie, il y a un homme qui est rentré dans une école amish et il a tiré sur 10 petites filles. Et ensuite, il s'est donné la mort. Et 5 de ces petites filles sont décédées. Et la communauté amish a pardonné immédiatement à cet homme. Non seulement elle a pardonné, mais elle a organisé une collecte pour le soutien de sa femme, de sa veuve. Et c'était quelque chose qui était stupéfiant et complètement incompréhensible pour les gens, les journalistes sont venus, mais comment faites-vous pour pardonner ça? Et comment le faites-vous si vite? Et ils ont répondu, ben nous on prie notre Père 2 fois par jour et on le répète, pardonnez comme vous avez été pardonné. Et donc ça n'a été quelque chose qui est devenu naturellement pour nous. Ils étaient formés à l'intérieur de leur communauté, dans leur vie de piété, pour être des artisans de paix, des modérateurs en toutes choses. Et pour l'écologie, bon, il y a un sujet, dit-il, que l'Église ne s'occupe pas du tout. Et pourtant, le monde a été créé par Dieu. On a le mandat de bien s'occuper de la création. Et un jour, Jésus-Christ renouvellera toutes choses, comme on l'a dit. Et les chrétiens régneront sur quoi? Quand ce sera l'accomplissement, ici la nouvelle création, l'harmonie cosmique, ben les hommes régneront sur la création, bien sûr. Et donc, l'écologie a toute sa place parmi nos préoccupations, mais pas selon l'actualité, selon la parole de Dieu. Et il y a un travail où on ne travaille pas beaucoup. Il y a des chrétiens qui s'en occupent. Hein, il y a des Rochards, je crois, qui... une organisation chrétienne qui a ça à cœur, qui travaille là-dessus, sur ces sujets-là. Mais, bon, nous, en tout cas, ici, on n'est pas plus que nos concitoyens dans ce domaine. Voilà. Alors, en conclusion, là où Dieu nous a placés, nous pouvons être des artisans de paix. Là où Dieu nous a envoyés, là où il nous a placés dans le monde, dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage, là, on peut être des artisans de paix. Et à quelque part, plus nous sommes entourés de personnes qui ne connaissent pas Dieu, plus notre rôle est important. Et pour être un artisan de paix crédible, il faut simplement vivre soi-même cette paix, je pense, c'est suffisant. Avoir reçu la paix de Dieu, que notre paix intérieure soit effective, qu'on soit bien réconcilié avec son corps, entre autres, que la paix dans l'Église soit effective aussi, et nous pourrons être ces artisans de paix simplement en vivant cette paix. Et cette paix est entretenue par la priorité dans notre relation à Dieu. Ne jamais oublier qui nous sommes ni d'où nous venons. Se nourrir chaque jour de la paix de Dieu par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Et en Église, s'édifier. Et contribuer à l'édification de nos frères et sœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et ensuite, donc, vivre simplement un enfant de Dieu, là où Dieu nous a placés. En étant toujours prêt, comme dit l'apôtre Pierre à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Seigneur, merci pour le cadeau que tu as fait au monde, ce grand plan de salut, et chose incompréhensible que tu nous y associes, des faibles hommes, de faibles femmes comme nous, qui ne sommes rien. Tu nous as pris, et tu nous as introduit dans le royaume de ton Fils, et tu nous as renvoyés. Et tu nous as envoyés dans le monde avec ton Esprit Saint en nous. c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et mais nous savons que tu peux faire de grandes choses à travers le plus modeste d'entre nous. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, et aide-nous à simplement être de briller, comme dit ta parole, et d'être ce sel qui conserve les choses pour tous nos concitoyens. Merci Seigneur de ton prochain retour. Merci parce que tu viendras rétablir la justice et la paix. Un jour sera le jour du Seigneur. Et ce jour-là, nous l'attendons dans le nom de Jésus. Amen.